Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur immobilier et fondateur de EasyInvest, qui est un facilitateur de projets immobiliers sur l'Île-de-France et ses environs. Vous pouvez nous retrouver sur notre site easyinvest.fr, nos pages Facebook, LinkedIn ou Instagram, et nos groupes Facebook dédiés pour l'un à l'investissement et pour l'autre à l'achat d'un logement en région parisienne. J'ai souhaité partager avec vous, avec ce podcast, des conseils d'experts de l'immobilier et de l'investissement en particulier. Des investisseurs, des marchands de biens, chefs de travaux, gestionnaires locatifs, agents ou gérants de fonds d'investissement. J'espère que vous apprécierez et que cela vous donnera envie de vous lancer dans cette super aventure. Vous pourrez commenter, noter, partager ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode.
Aujourd'hui, je reçois Laurence Delannoy, qui est une experte en urbanisme. Elle a fondé Mon Analyse Foncière afin d'assister et conseiller des investisseurs sur le potentiel constructible d'une parcelle ou d'un terrain. Elle nous livre plein de petits conseils dont j'espère vous saurez profiter. Bonne écoute.
Bonjour Laurence.
Bonjour Gary.
Merci d'avoir accepté mon invitation et de venir nous parler un petit peu de ton expérience immobilière et d'urbanisme sur notre podcast pour EasyInvest. Est-ce que tu peux te présenter?
Eh bien, moi, je m'appelle Laurence Delannoy. Alors, je ne vais pas dire mon âge, je dirais juste que je suis née avec la loi au guet. Voilà. Exactement. Donc, comme ça, je laisse chacun faire son calcul. Alors, moi, je fais de l'immobilier, ça va faire bientôt 5 ans, suite à une reconversion professionnelle. Et il y a 5 ans, du coup, je me suis tout simplement inscrite, comme beaucoup font, au registre des agents commerciaux pour être agent commercial en immobilier. J'ai eu l'opportunité, tout de suite après m'être inscrite, de rencontrer en fait une structure qui travaillait avec des marchands de biens et qui m'a proposé de travailler avec eux en tant que prospectrice, je le dis en féminisant, En tant que prospectrice foncière, pour faire en fait des opérations de marchand d'achat-revente de terrain avec des divisions parcellaires. Donc, il se trouve que l'immobilier ne m'était quand même pas inconnu puisque je gère une SCI familiale depuis 2004 et que le PLU en fait était déjà pour moi une vraie passion puisque je m'en étais déjà servie pour d'autres opérations. Donc, je me suis lancée, j'ai commencé à travailler avec eux et au fur et à mesure, je me suis dit que quand même, il me fallait une formation un peu plus conséquente. Donc, j'ai suivi l'enseignement du CNAM ICH à Paris et je suis fière d'annoncer que j'ai un beau diplôme de responsable de programme immobilier qui est très, très sérieux. Alors, ça peut vous paraître bête, mais comme c'est une reconversion, ça me tenait à cœur, en fait, d'avoir un diplôme. Ce qui est complètement idiot, mais pour moi, c'est important. Voilà.
Très bien. Oui, et puis l'ICH, c'est quelque chose qui est très reconnu dans le secteur immobilier.
Oui, complètement.
C'est, je crois, d'ailleurs, l'une des formations qui est accréditée RIX, il me semble.
Oui, c'est ça. Exactement.
Ouais. Donc oui, ça fait foi. Et c'est tout sauf idiot. Enfin, de mon point de vue, c'est...
Voilà.
Le but n'est pas effectivement forcément d'accumuler tous les diplômes possibles, mais en tout cas, oui, la formation est reconnue et se former, c'est essentiel aujourd'hui.
Voilà, exactement. Donc du coup, pendant toute cette période-là, je me suis dit que c'était très très bien de travailler pour des marchands, mais que travailler pour soi, pour d'autres professionnels, mais pourquoi pas également pour des particuliers, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. En fait, au départ, je suis profession de santé, donc j'ai un rapport avec les gens qui sont particuliers. Donc, je voulais travailler avec des particuliers aussi pour leur permettre d'acquérir aussi des connaissances et de pourquoi pas eux-mêmes faire des opérations sur leurs propres biens immobiliers. Et donc, j'ai fondé une petite entreprise qui s'appelle Mon Analyse Foncière. Voilà, tout simplement. Et j'ai démarré, tranquillement, pour faire de l'analyse foncière. Donc, ça peut être de la division, mais tout un tas d'autres choses. Savoir ce que l'on peut faire sur un terrain, ce que l'on peut faire avec un bien. Voilà, toutes les possibilités d'évolution sur une parcelle.
D'accord. Donc, tu peux, de cette manière, avec ta structure que tu as créée, accompagner aussi bien des pros, des marchands, que des particuliers
propriétaire, par exemple, d'un petit pavillon à la campagne, qui pourrait être amené à se poser la question de est-ce que je peux faire quelque chose supplémentaire sur mon terrain.
Voilà, c'est ça. Il y a les deux aspects. Il y a l'aspect effectivement professionnel, donc pour des investisseurs ou des marchands qui pêchent un peu sur la question de l'urbanisme et qui s'interrogent à ce sujet, mais également pour des particuliers qui ont déjà un bien et qui veulent le valoriser, savoir ce qu'ils peuvent faire avec, plutôt que de vendre et d'acheter autre chose.
D'accord.
Parfois, il y a des possibilités intéressantes.
Ouais, donc du coup, t'as ton champ d'interlocuteurs et de clients potentiels est très vaste.
Il est très vaste, alors qu'au départ, j'étais vraiment centrée sur le particulier, mais en fait, je m'aperçois que j'ai des demandes autres auxquelles je n'avais pas pensé. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, je me dis, bah, pourquoi pas également. Mais c'est pas la même approche, mais ça peut aussi, je pense, se servir à beaucoup d'investisseurs et de marchands.
D'accord. Oui, bah, c'est vrai que c'est intéressant, c'est passionnant, parce qu'un particulier qui a déjà son bien, lui, effectivement, ça peut être intéressant pour lui d'évaluer les possibilités ultérieures de valoriser davantage leur bien, qui est déjà bâti, etc. Alors que la réflexion d'un marchand, par exemple, lui, ça va être vraiment l'opportunité d'acheter ou non. Donc là, on n'est pas dans la même situation. À la rigueur, si le particulier n'a pas de possibilité, bon, il a toujours sa maison qu'il a achetée, dans laquelle il vit peut-être depuis 10 ou 20 ans, bon, il n'y a pas péril. Tandis que le marchand, lui, qui ferait le mauvais choix ou qui ne serait pas bien avisé et qui achète en faisant une erreur d'appréciation, là, il y a péril.
C'est sûr, effectivement, ce n'est pas la même approche. Donc, l'idée, c'est de savoir quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, heureusement, un nombre de conditions suspensives qui peuvent effectivement sauver certaines négociations. L'idée cependant étant de ne pas non plus en mettre trop pour que l'acquéreur soit toujours, ait toujours envie de vous vendre le bien que, voilà.
Le vendeur, vous, oui, c'est
voilà,
ça.
Le vendeur,
que le vendeur
pardon.
Puisse accepter
voilà,
le
accepter
deal,
toutes ouais. Les conditions suspensives, hein, puisque déjà, il y a un temps qui est plus long par rapport à une acquisition classique. Il ne faut pas non plus trop l'assommer de conditions suspensives. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de tout étudier en amont avant de se retrouver bêtement en face d'un refus d'urbanisme ou d'une autre problématique que l'on n'aurait pas vue. Donc effectivement, il y a quand même plein de choses à prendre en compte.
C'est ça.
En amont.
Exactement, parce que effectivement, il y a deux contraintes majeures pour un investisseur, un marchand de biens. Il y a un, le but du marchand, c'est de réaliser un bénéfice, et donc de faire une plus-value entre son achat et sa revente, sachant qu'effectivement, tu le disais, le temps est déjà un premier souci, le temps pendant lequel son argent va être immobilisé avant d'être débloqué lors de sa revente. Mais effectivement, bien sûr, outre le temps qu'il peut perdre, il faut le plus possible éviter qu'il puisse en plus perdre de l'argent en se positionnant sur une opération sur laquelle il aurait eu le sentiment ou la mauvaise appréciation de pouvoir réaliser quelque chose dessus, alors qu'en fait, on se rend compte parfois, après une analyse un peu poussée qu'il faut réaliser de toute façon sur des terrains, qu'on a mal apprécié, qu'il y avait une subtilité qui n'était peut-être pas évidente au premier abord et qui finalement rend l'opération plus complexe, voire impossible.
Oui, parce que les subtilités, elles n'apparaissent pas dans les annonces immobilières que l'on peut regarder sur les sites. Donc en général, quand c'est un terrain ou même une maison, si on a de la chance, on a quand même la zone urbaine du plan local d'urbanisme qui nous dit où elle se trouve, et on peut aussi avoir comme indication le coefficient d'emprise au sol, et souvent on se contente de ça, mais c'est sans compter les autres restrictions qui peuvent être présente sur une parcelle. Donc il existe tout un tas de choses qui vous empêchent de diviser, de construire. Il y a des bandes de constructibilité, il y a des cœurs d'îlots à préserver qui font que vous ne pouvez pas construire. Il y a des règles d'implantation qui sont très strictes, donc vous ne pouvez pas aller en limite. Vous êtes obligé de laisser une distance par rapport à la parcelle voisine ou la parcelle de fond. Et en fait, il y a beaucoup de raisons qui font que on ne peut pas diviser parce qu'on ne peut pas construire.
Exactement.
Voilà.
Et donc là, on rentre dans le cœur de notre échange qui est vraiment l'achat ou en tout cas l'analyse d'un terrain constructible idéalement, puisque le but de nos auditeurs, c'est d'investir, alors soit pour certains pour construire sur par exemple un projet locatif long terme, soit pour d'autres qui nous écoutent et qui sont des marchands professionnels parfois ou débutants également souvent. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un petit panorama des différentes questions, des pièges aussi à éviter, auxquels on peut être confronté lorsque on tombe sur une annonce immobilière dans un premier temps, lorsqu'on va appeler pour avoir des renseignements supplémentaires l'agent, ou on le verra peut-être plus tard, éventuellement le partenaire foncier qui peut parfois être l'associé de l'agent sur une opération, etc. Donc dans un premier temps, généralement, ça démarre par une annonce. Ensuite, on va aller un petit peu à la pêche aux infos pour essayer de comprendre un petit peu mieux de quoi il retourne. Et puis après, on va visiter le bien. On va regarder un petit peu physiquement les environs, le quartier, etc. pour voir si ça peut convenir pour telle opération. Et ensuite, bien souvent, on va se retrouver à l'urbanisme, à la mairie, pour là aussi essayer d'échanger avec un interlocuteur. Tu nous diras qui il faut voir dans ces cas-là et qu'est-ce qu'il faut regarder et analyser de très près. Mais voilà, mais il y a tout un enchaînement de phases avant d'arriver à une conclusion positive dans le meilleur des cas et à une offre sur un bien. Donc c'est un process vraiment très long et l'idée, c'est vraiment de voir ensemble ce qu'il faut regarder de près et là où il faut être attentif avant de s'engager un petit peu trop hâtivement sur une opération. Alors si tu en es d'accord, on va commencer par le début. On est sur internet, on regarde des annonces, on cherche un terrain, je sais pas moi, en région parisienne. On est à Paris, donc imaginons qu'on regarde des terrains en région parisienne. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans un premier temps? Qu'est-ce que l'annonce peut nous dire? Tu parlais de coefficient de cost, tu parlais d'emprise au sol, etc. Parfois, effectivement, on a ces infos, mais pas tout le temps.
Alors, effectivement, on peut avoir des infos. Alors, c'est devenu très compliqué maintenant, puisque le cost, coefficient n'existe plus, mais il a été remplacé par le CES, le coefficient d'emprise au sol, qui permet de savoir donc, au sol la surface que l'on peut construire. La difficulté de ce CES, c'est qu'il ne peut pas s'étudier seul. Donc c'est déjà un problème. Ensuite, le deuxième problème, c'est que toutes les villes ont chacune un PLU qui est différent, à moins d'avoir un PLUI intercommunal donc qui regroupe plusieurs villes. Et sur ce même PLU, il y a différentes zones, en général des zones urbaines. Et sur ces zones urbaines, il peut y en avoir 4, 5, 6, donc qui ont chacune une réglementation différente. Et à l'intérieur d'une même zone, il y a des parcelles qui ont aussi des problématiques particulières avec des servitudes, tout un tas de choses qui font qu'on ne peut pas réaliser la même opération sur une parcelle qui semblerait pourtant identique à une autre dans la même ville. Donc déjà, ça devient compliqué. On ne peut pas non plus se référer à la taille du terrain, puisque de toute façon, ça ne veut plus rien dire désormais. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on cherchait plutôt des parcelles grandes, puisqu'il y avait effectivement ce fameux COS qui limitait la constructibilité. Mm-hmm. Ce qui théoriquement n'est plus le cas, mais il y a d'autres règles qui peuvent la limiter. Donc, il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent attirer l'œil. Par contre, la manière dont va être rédigée l'annonce peut effectivement parfois nous interpeller. Donc, évidemment, il faut quand même regarder, si vous voulez faire de la division foncière, la taille du terrain, mais pas forcément que. Et puis si vous avez parfois un petit mot de l'agent commercial ou l'agent immobilier qui vous dit « terrain divisible », ça peut arriver.
Ça peut arriver,
oui. Ça peut arriver. Alors là, vous êtes en général content, vous dites ah, « tiens, je vais appeler ».
La bonne affaire.
Voilà. Alors, moi, je ne procède pas de la même manière quand je faisais la prospection foncière, c'est-à-dire que je n'allais jamais visiter en amont. C'est-à-dire que je faisais mon étude avant de me déplacer, parce que ça évite souvent bien des déplacements inutiles. Puisque ce n'est pas parce que l'agent immobilier vous dit que c'est divisible que de facto ça va l'être. Puisque l'agent immobilier, lui, en fait, ne connaît pas vraiment le PLU, ou il peut avoir une information, comme ça m'est arrivé, qui lui a été donnée par le propriétaire.
Oui, c'est pas forcément de mauvaise foi. Ouais, ouais.
Voilà, que son bien était divisible, alors qu'en fait, mais ce n'était pas le cas. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Dans les annonces, c'est vrai que ça devient compliqué de savoir quel sera le terrain qui va vous permettre de faire une division. Dans l'absolu, l'idée, c'est d'appeler et, si possible, mais ça, c'est pas toujours évident, d'avoir une adresse.
Ah, le sésame.
Alors, avec un bon de visite, c'est parfois ouais, possible. C'est vrai que moi, comme je travaillais en partenariat avec les agences, étant professionnelle, la communication avec un autre professionnel.
Elle est parfois voilà. Simplifiée.
Et peut-être parfois simplifiée, donc en signant voilà, des bons de visite.
Oui, c'est ça, parce qu'il ne faudrait pas non plus que l'agent, du coup, se méfie.
C'est ça, exactement.
En pensant que tu récupères un mandat
de vente. Donc, effectivement, c'est plus facile. Après, quand on est tout seul particulier, c'est effectivement plus compliqué d'avoir cette info-là en amont.
OK. Alors, imaginons, donc, première chose à demander, effectivement, voilà, si c'est possible... l'adresse du bien qui va nous permettre derrière de réaliser une première analyse et d'éviter, donc, comme tu le disais, un déplacement inutile. Une fois qu'on a cette adresse, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est de regarder le plan de zonage et savoir où se trouve cette parcelle. Donc, vous avez le géoportail de l'urbanisme,
très bien,
qui est un outil merveilleux où vous rentrez l'adresse et vous aurez tous les renseignements qui concerne cette parcelle, donc le zonage, si dessus il y a ou pas des restrictions. Mais après, il faut lire le plan local d'urbanisme et les règles qui s'appliquent sur votre parcelle. Il n'y a pas de miracle.
D'accord. Alors, la première étape dont tu parlais, le géoportail de l'urbanisme,
c'est
pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi? C'est donc un site?
C'est le site qui regroupe en fait tous les PLU.
De France.
Voilà, ils doivent être tous implémentés dessus. C'est obligatoire. Bon, il y a parfois des loupés, mais s'ils n'y sont pas, normalement, la ville doit vous les fournir.
D'accord. Donc, en rentrant l'adresse
sur
ce site,
voilà,
on obtient du coup les PLU, le oui, PLU, pardon,
c'est ça,
concerné.
Exactement. Et on peut même avoir des détails. On a aussi sur certains toutes les servitudes. Donc, les servitudes, c'est les contraintes qui sont sur un terrain. Et vous avez aussi ce qu'il va falloir regarder en premier, c'est le plan de zonage, c'est-à-dire la partie graphique visuelle, le plan de la ville, le plan de votre parcelle.
C'est une partie du PLU ou
c'est
une annexe.
C'est la partie graphique. Non, c'est pas une annexe, c'est la partie graphique. Et l'intérêt de cette partie graphique, c'est que en un coup d'œil, vous allez voir tout ce qui est sur votre parcelle. Donc tout est dessus, sinon il y a plusieurs plans. Donc vous avez le zonage. S'il y a un emplacement réservé, par exemple, pour élargir la voie, vous le saurez. S'il y a un espace vert à protéger, vous le saurez. En fait, le plan graphique, c'est lui qui va vous permettre de voir toutes les contraintes, si elles existent, qui sont sur votre parcelle.
Rattaché à la parcelle.
Exactement.
Qui est donc... la source de l'intérêt qui est rattachée directement à l'annonce du bien
c'est auquel ça. On s'intéresse. Mais sans l'adresse, c'est impossible de le savoir.
D'accord. Donc, effectivement, objectif numéro un, essayer de rassurer son interlocuteur agent en lui signant, si besoin, un bon de visite pour le rassurer sur le fait qu'on passera bien par lui si jamais on venait à faire une offre. Obtenir l'adresse et faire une première analyse de la parcelle en question,
c'est ça,
via le PLU que l'on trouvera donc sur le géoportail dont tu nous as parlé. Très bien. Donc on est cette fois-ci étape numéro 2, on a accès, dans le meilleur des cas, imaginons qu'on ait réussi à accéder à l'adresse et au PLU. On regarde les documents graphiques et on se rend compte que, dans le meilleur des cas, a priori, cette parcelle semble constructible. On pourrait y faire une construction d'une, je sais pas moi, d'un petit immeuble ou d'une maison. Ça rend a priori un projet d'investissement immobilier ou d'achat-revente potentiellement cohérent. Est-ce qu'il y a, une fois qu'on en est là, quelque chose à regarder précisément? Je ne sais pas, moi, une hauteur de construction maximum. Qu'est-ce que peut nous apprendre le PLU sur le champ des possibles?
Alors, une fois qu'on en est là, donc on est content déjà. On peut construire.
Déjà, on est content parce qu'on a réussi à avoir l'adresse, on a réussi à accéder au PLU.
On a
dit,
vu qu'il n'y avait pas...
Comment on va pas faire d'erreurs énormes.
On a vu qu'il n'y avait pas de contraintes sur notre parcelle, mais pour savoir ce qu'on peut construire dessus, là, il va falloir se pencher davantage sur les prescriptions du PLU. Déjà, la première chose à faire, c'est de voir les constructions, le type de construction, enfin, la destination qui est autorisée. Si vous êtes dans une zone où vous pouvez construire que du bureau...
C'est bien de le savoir en amont.
Voilà, ça ne va pas être le même problème. Donc, il faut déjà regarder la première des choses, c'est si vous voulez faire de... La maison, est-ce que c'est une zone qui le permet? Première chose. Ensuite, effectivement, classiquement, on se focalise sur la hauteur, puisque on se dit que plus on peut faire haut, plus ça peut être intéressant. Voilà, bon. Le prix du terrain, à la base, nous donne quand même une information de ce que l'on est supposé pouvoir faire, théoriquement. Donc, la hauteur, c'est aussi effectivement intéressant, mais la première des choses à vérifier, c'est de savoir où on peut implanter sa construction. Si on sait qu'on veut faire de l'habitation, bon, on sait que la destination habitation est possible, mais où est-ce qu'on peut faire cette construction? Puisque c'est l'emplacement par rapport aux limites séparatives qui va nous dire si vraiment on peut faire, je dis n'importe quoi, si on peut faire 12 mètres, mais qu'on ne peut le faire que sur une bande de 2-3 mètres de large, ça ne va peut-être pas être très intéressant. Donc, il faut regarder la destination et après... on prend un plan, hein, tout simplement, on peut le faire avec une règle de dessinateur, on le fait à l'échelle, on prend le plan du cadastre, en supposant qu'il est conforme au terrain, et on peut tout à fait tracer à la main des petits traits qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on peut implanter notre construction par rapport à la rue, par rapport au fond de parcelle, par rapport aux limites. Ce qu'il faut bien prendre en considération également, c'est si on a le droit de mettre ou pas des ouvertures. Puisque quand on est en limite, ça veut dire pas d'ouverture. Quand on est en retrait, il y a plein de règles. Le PLU, il y a de nombreuses règles. Et si on peut parfois se mettre en retrait de 3 mètres, mais avec que des jours de souffrance, c'est-à-dire pas des fenêtres. Pour mettre des fenêtres, il faut se reculer à 5 mètres.
D'accord.
Donc il faut prendre tout ça en considération pour visualiser quelle sera la construction que vous pourrez réaliser, où seront les ouvertures, pas les ouvertures. Et après, éventuellement, envisager de voir aussi par rapport à l'éclairement, l'ensoleillement, quelle sera l'orientation de votre maison. Et puis, j'oubliais aussi quelque chose de primordial, savoir si vous avez les accès suffisants pour construire. Ça, c'est important quand on a envie de diviser.
On parle de viabiliser
Non, d'accéder à la parcelle.
Ah oui, oui.
Puisque un marchand, s'il veut faire une division parcellaire, souvent, en ce moment, on n'a plus trop de choix, c'est du lot arrière. Mmh. Sauf que pour accéder au lot arrière, il faut avoir un accès suffisant. Cet accès, il est réglementé par le PLU. Tous les PLU n'ont pas la même taille. Il y en a qui vont mettre 2,50 m, d'autres 3,50 m. Donc si vous n'avez pas cet accès, il va falloir penser à comment le faire. Et là, c'est encore aussi une autre problématique.
D'accord. Donc les accès, la taille ou la forme possible du coup de la maison, à moins d'adorer un couloir...
Il faut quand même
avoir une largeur suffisante. Donc l'accès, les réseaux, tout ce qui va être viabilisation.
C'est ça, puisque plus vous êtes loin de la rue, et plus ça va faire cher.
C'est ça, donc voilà. il faut le prendre en compte également. Donc c'est un vrai parcours semé d'embûches, finalement.
Oui, puisque à chaque étape, le projet peut finalement
tomber à l'eau. Complètement. Donc, soit on est encore vivant, soit on fait une croix dessus.
C'est ça. Mais en même temps, c'est ce qui est passionnant dans le PMI, ouais. Parce qu'on ne peut jamais savoir à l'avance. Alors, évidemment, pour l'investisseur, c'est moins drôle, mais effectivement, c'est un plaisir aussi de lire les PLU, puisque c'est la surprise et que parfois, on peut avoir des bonnes surprises.
C'est ça. Et puis, du coup, peut-être se servir d'une étude approfondie d'un PLU sur, par exemple, telle zone. Finalement, si c'est un projet qui est tombé à l'eau parce que la parcelle ne s'y prêtait pas, etc., peut-être se servir de cette analyse approfondie pour se dire, bah, alors là, franchement, je crois que j'ai très bien compris ce que le PLU m'impose comme contrainte, etc. Du coup, je vais regarder s'il ne pourrait pas y avoir un autre terrain dans la même commune.
Une fois qu'on a compris comment fonctionne le PLU,
pour éviter de repartir éventuellement à zéro. Exactement. Sur 50 communes différentes et 50 PLU différents. Ça peut aussi être
une
possibilité. Bon, après,
on peut tout à fait.
Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a, puisque tu nous disais, parce que toi, t'es une pro, tu nous disais que voilà, tu parviens à éviter, tant que faire se peut, d'aller visiter inutilement des biens, des terrains, et que tu fais cette analyse du coup dans tes bureaux à tête reposée avec ta feuille, ta règle, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ne se voient pas sans aller voir sur place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est-ce qu'il y a un moment où il faut aller sur place pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose que les documents ne nous diraient pas?
Alors, il faut toujours aller voir sur place. Alors, c'est vrai qu'au début, on a notre ami Google. Mm-hmm. Donc, on peut, c'est vrai, on a des outils qui nous permettent quand même de voir l'environnement immédiat. Donc, ça aide beaucoup. C'est important de savoir le type de construction qu'il y a à côté. Hein, et
c'est vrai que c'est sûrement plus simple qu'il y a 20 ans.
Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même maintenant plein de choses à notre disposition, mais il faut toujours aller voir sur place, notamment quand on veut faire la division parcellaire, puisqu'on peut avoir des surprises par rapport au réseau, justement.
D'accord.
Il faut que, voilà, quand on fait de la division parcellaire et quand on veut faire des choses simples, juste une déclaration préalable,
ouais.
Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments d'équipement commun. Donc, si on a un regard, d'eau de pluie, qui est mal placé sur le terrain et qu'on veut diviser à cet endroit-là, ça peut nous poser problème. Ce qu'il faut voir également sur place, donc, c'est les poteaux électriques existants. Si on veut diviser, si on va pouvoir faire un bateau.
D'accord.
Parce que c'est vrai que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, non. Mais si, par exemple, il y a un arrêt de bus devant la construction, la mairie va peut-être avoir plus de mal à nous autoriser la création d'un bateau si elle ne peut pas déplacer l'arrêt de bus. S'il y a un pylône EDF devant, tout un tas de choses qui font que, sur le plan technique, ça va compliquer la tâche.
D'accord. Et ça, effectivement, ce sont parfois des choses qu'on ne voit pas sur un document du PLU complètement. Donc,
voilà.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on... Par bonheur, on arrive à écrémer les différents problèmes au fur et à mesure. Là, on rentre dans le vif du sujet, on se rend sur place et on regarde s'il n'y aurait pas un problème que l'on ne pouvait pas observer.
C'est ça. Et il y a aussi la configuration du terrain. Parfois, ça peut être en pente, mais on ne le savait pas.
Ah oui.
Pour les évacuations, les arrivées d'eau, tout un tas de choses. C'est vrai qu'il y a des informations qu'on n'a pas et puis parfois, on pose... ne pense pas non plus à les donner. Et c'est aussi bien d'aller sur le terrain parce que parfois, on s'aperçoit que quand il y a une construction existante, elle peut ne pas être conforme à ce qu'on avait supposé. Et on voyait qu'il n'y avait pas de fenêtre et finalement, il y en a une. Donc, ça risque de poser problème quand on veut faire des divisions. Donc, il faut toujours se rendre sur place obligatoirement. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de le faire déjà quand on a un peu... plus avancé.
Essayer de filtrer un petit peu les premières contraintes éventuelles avec l'analyse du PLU en amont.
C'est ça.
Comme tu le disais. Ok. On avance, on imagine que les feux sont encore au vert
à ce moment-là, que le projet semble réalisable, voilà, on va prendre le meilleur des cas, on va prendre le cas où on n'est pas 50 concurrents et qu'on a pu prendre un petit peu le temps de cette analyse. Vraiment être très optimiste sur ce dossier, on va dire, voilà, tout se passe bien, on a eu l'adresse, l'agent est bien, il est sympa, il fait bien son boulot, on a réussi à obtenir les infos, etc. On n'est pas trop pressé, on arrive à analyser les choses, etc. Vient le moment de faire une offre. Tu nous as parlé très rapidement tout à l'heure de conditions suspensives. Tu nous as aussi parlé de déclaration préalable. Sur quel point est-ce qu'il faut être attentif et vigilant au moment de réaliser une offre? Et qu'est-ce qui, dans le meilleur des cas, peut être un confort pour nous, acquéreurs, et qu'on pourrait demander comme petite faveur auprès d'un vendeur, comme condition?
Alors, la condition suspensive, c'est uniquement la seule, c'est l'autorisation de diviser, en fait. La déclaration préalable de division ou le permis d'aménager, selon le projet qui est envisagé. Sachant que dans l'idéal, par rapport au vendeur, ce serait bien de sécuriser, entre guillemets, en amont, et de demander un certificat d'urbanisme opérationnel à la mairie.
CUB.
Voilà, le fameux CUB, qui, en fonction du projet que l'on veut faire, va nous dire s'il est réalisable ou non. Donc ça permet de rassurer aussi notre vendeur, sachant que l'avantage du certificat d'urbanisme, c'est que n'importe qui peut le demander,
très bien,
même celui qui n'est pas propriétaire.
Parfait.
De cette parcelle.
Très bien, ce qui permet de gagner un petit peu de temps en amont.
Et de montrer qu'on est aussi professionnel, ouais, et qu'on s'est renseigné et qu'on a les informations et qu'on veut les valider.
Très bien. Le CUB, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que le gros avantage, c'est qu'il fige les règles. Il permet vraiment d'être totalement rassuré sur du coup le potentiel constructible de l'opération en question. Ce qui est écrit, et même si, imaginons le pire des cas, les règles devaient changer avant que l'opération soit totalement acquise et validée, ça permet d'être rassuré sur le potentiel constructible à ce moment-là, au moment où on le demande.
C'est ça, exactement. Il cristallise les règles pendant 18 mois. Donc, ce que ça veut dire, c'est que donc, si on a son projet, on fait sa demande, dès lors qu'on a un certificat d'urbanisme qui est positif, ça veut dire qu'on pourra faire effectivement ce projet dans les 18 mois qui viennent, même s'il devait y avoir un changement dans les règles d'urbanisme. Il y a des petits bémols à ça, mais c'est classiquement, voilà.
En tout cas, c'est pour ça qu'on le fait, c'est vraiment pour être rassuré sur l'opération en question. Est-ce que tu connais le délai d'obtention du CUB en question?
C'est 2 mois, je crois.
2 mois, oui, c'est aussi ce que j'avais en tête. Ok, donc ce qui permet effectivement de le demander vraiment en amont, au moment où on commence à s'intéresser au projet, et de se dire que ça nous laisse le temps, avant de signer peut-être le compromis,
c'est ça,
d'être rassuré, sinon, faute de quoi, il faudra rajouter des routes de secours, des plans B, si on n'a pas eu cette info à un moment avant.
Exactement. De signer. Donc on peut la demander à n'importe quel moment. Donc si on a un temps de négociation qui est long, finalement,
c'est parfait.
Si on l'a demandé avant, ça peut être une idée intéressante. Je voulais dire quelque chose d'autre et puis j'ai oublié.
Ça reviendra. Mais donc le CUB.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que on peut aussi avoir oublié des choses. Donc le CUB, en fait, il va nous dire toutes les servitudes, il va nous rappeler aussi toutes les servitudes qui existent sur ce terrain. Et parfois, on peut avoir oublié une servitude qui peut être d'importance, c'est les Bâtiments de France, l'ABF.
Ah oui.
Voilà. Et souvent, c'est compliqué de savoir si on est en zone Bâtiments de France ou pas. Parfois, ce n'est pas si clair. Et donc ça peut être aussi une indication importante.
Donc ça, ce sera inscrit sur le CUB.
Tout est inscrit. C'est-à-dire qu'il permet de valider non seulement la faisabilité du projet, mais il va donner également toutes les servitudes qui s'imposent sur le terrain, et il va figer aussi les taxes. C'est-à-dire que s'il y a un changement de taxe d'aménagement, ça les fige aussi.
Très bien. Et oui, parfait. Donc les taxes, les
servitude. La question de la viabilisation éventuelle aussi, je crois.
Oui,
qu'il,
c'est, voilà,
il évoque
exactement.
Aussi le point des
c'est
réseaux.
Ça. Donc, a priori, quand on est en zone U, théoriquement, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Mais effectivement, il peut y avoir parfois des problèmes en fonction de l'opération envisagée. Donc, si c'est vraiment juste une simple division pour faire une maison d'habitation, il y a moins de problèmes. Et plus les projets sont d'envergure, plus effectivement, il peut y avoir... une opposition par rapport au réseau qui ne serait pas suffisant.
Oui, voilà, par exemple, imaginons qu'on vise une division en 3 ou 4 terrains sur lesquels il y aura le nombre de maisons, je sais pas, 4 maisons, une maison sur chaque terrain, etc. Effectivement, peut-être que le réseau électrique doit nous permettre d'acheminer davantage de puissance pour alimenter l'ensemble des futures
voilà.
maisons, etc.
C'est ouais. ça. Donc, ça aussi, on aura voilà, okay. cette information.
Ok, oui. Parfait. Donc, on signe notre offre. On est toujours dans le best case possible. Tout s'est bien passé jusque-là. On signe notre offre. On a réussi à intégrer dedans les conditions éventuellement suspensives de PC obtenus,
c'est ça.
Purgés. Voilà, on va dire que tout s'est bien passé dans la négo avec notre vendeur. Dès lors, on part sur un temps parfois long entre le compromis et l'acte définitif. On peut parfois partir sur des opérations qui durent 6 à 12 mois sans problème. Hein. L'urbanisme, on n'en a pas beaucoup parlé, la mairie, à quel moment est-ce qu'il faut aller les voir? Est-ce qu'on essaye d'aller les voir en amont? Est-ce que le CUB, si on a demandé un CUB, dispense d'aller sonner à la porte de la mairie? Est-ce qu'il faut aller les voir, ces gens-là? Est-ce qu'il faut aller discuter avec eux du projet?
Alors, il ne faut pas forcément aller discuter avec eux du projet quand ce sont des petits projets de division parcellaire, juste une déclaration préalable pour faire un lot. A priori, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, là où il va falloir peut-être aller les voir, c'est quand on a des projets d'envergure plus importante.
D'accord, on veut construire un petit immeuble.
Voilà, là, ça paraît obligatoire. Surtout que si c'est vraiment un petit immeuble... ou un grand immeuble, il peut y avoir aussi des contraintes supplémentaires qui sont des chartes promoteurs ou des chartes constructeurs, c'est-à-dire que ce sont des règles qui s'imposent en plus au PLU.
Oui, d'accord.
Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en considération, mais c'est vraiment pour des opérations d'envergure, donc ça ne concerne pas en général les divisions parcellaires. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller les voir. C'est toujours mieux... effectivement quand on a des grands projets ou quand on envisage de faire beaucoup d'opérations sur une même commune.
D'accord.
De se faire connaître.
Ah oui, oui, bah voilà. Là, effectivement, ça devient un interlocuteur quand même.
Exactement.
Oui, oui.
Exactement. Sachant que les municipalités n'ont pas vocation à répondre aux professionnels.
D'accord, ok.
Certaines vous le disent. Vous êtes professionnel, vous devez avoir la réponse. Donc, elles ont effectivement tout un tas de services pour les particuliers, notamment les CAUE, les chambres d'architecture, je ne sais plus comment on les appelle exactement, qui sont à disposition des particuliers, qui peuvent avoir un rendez-vous pour savoir exactement ce qu'ils peuvent faire, eux, sur leur parcelle, mais c'est pour le particulier propriétaire de son bien.
D'accord.
Donc souvent, il peut y avoir comme ça, effectivement, des différences de traitement, on va dire. Mais bon, c'est normal aussi. L'idée, c'est d'informer les moins sachants,
d'accord.
théoriquement. Okay. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller voir le service
d'urbanisme. D'aller taper à la porte du service urbanisme, d'accord. Okay.
On n'a pas parlé...
de tout, non. Pas encore.
Non, au moment de la signature du compromis.
Oui.
Il y a... aussi une petite chose à vérifier,
ouais.
c'est le titre de propriété.
Ah, mais bien sûr, c'est vrai.
Parce que ça, en fait, on l'oublie.
C'est vrai.
Et les agents immobiliers aussi, ils oublient.
Ah, bah les agents immobiliers, oui, complètement.
Et donc, si je parle de ça, c'est parce que j'avais une petite
anecdote
à ce sujet avec un marchand qui envisageait de faire une division parcellière qui était tout à fait réalisable avec un très beau terrain. On pouvait faire une belle maison dessus. Sauf que l'agent immobilier ne nous avait juste pas dit qu'il y avait en fait une petite servitude qui s'appelle non altus tollendi. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas construire en hauteur. Donc, on ne pouvait faire qu'une maison de plein pied. Donc, ce qui n'est pas la même chose qu'une maison en R plus 2.
Oui, ça change drastiquement le projet.
Voilà. Donc, le titre de propriété, c'est important. Et se faire expliquer les servitudes qui existent sur un bien. Parce qu'on peut avoir des surprises s'il y a déjà une servitude qui empêche de construire ou qui empêche de construire où on veut ou qui empêche de construire plus haut. Voilà, c'est important. Alors, c'est rare, hein. Mais comme
oui,
c'est arrivé...
Mais comme on n'aime pas le risque, en général, on essaye de l'éviter au maximum. Hein,
c'est
en
ça.
Général. Surtout quand on est bien avancé maintenant dans l'analyse et qu'on se voyait déjà avec notre terrain et qu'on pensait même déjà peut-être la revente dans un an. Oui, non, c'est capital d'évacuer toutes les contraintes potentielles. Donc, celles que tu viens d'évoquer... la servitude qui arriverait, qui serait donc inscrite sur le titre de propriété, c'est quelque chose que l'on ne pouvait pas détecter sur le CUB. Le CUB ne l'aurait pas
non.
dit.
Puisque le CUB, ce sont des règles d'urbanisme, alors que les servitudes, ce sont des règles de droit privé.
D'accord.
Donc en fait, l'urbanisme ne s'en occupe pas.
Okay.
Ce n'est pas son rôle. Donc lui, il ne donne des informations que par rapport au plan local d'urbanisme, aux autorisations d'urbanisme, administratives pures, et après, libre aux tiers de se manifester s'ils considèrent effectivement qu'ils sont lésés. C'est ce qu'on appelle le droit des tiers.
D'accord. Okay.
Voilà. Donc l'urbanisme, il donne son autorisation, il va autoriser la construction, il va autoriser faire une maison à deux étages, mais celui qui bénéficie de cette servitude, c'est-à-dire que lui, cette servitude, c'est pour empêcher d'avoir une maison de deux étages en face de sa fenêtre,
d'accord.
Et ben, il va se manifester.
Okay.
Mais l'urbanisme ne sera pas responsable.
Ok, donc effectivement, donc, il faut faire les deux.
Il faut faire les deux.
D'une part... se renseigner et essayer d'obtenir le CUB qui cristallise les règles d'urbanisme sur la parcelle en question. Et derrière, il faut faire une analyse un petit peu poussée du titre de propriété, en tout cas des servitudes qui pourraient être inscrites sur le titre de propriété qui sont d'ordre privé.
C'est ça.
Et qui peuvent du coup nous dispenser de recours de tiers, notamment dans le cas que tu évoquais d'une maison sur laquelle
voilà.
la hauteur n'était pas possible.
C'est ça.
Ouais. Donc c'est bon, voilà.
Mais ça, voilà, l'urbanisme ne le sait pas. Les règles de droit privé, il ne s'en occupe pas.
D'accord, ok. J'imagine que dans le cas que tu évoques, le tiers en question, il se serait manifesté... Est-ce qu'il doit se manifester au moment où le PC serait affiché sur le terrain et en mairie ? Dans le fameux recours des tiers, le délai pour le recours des tiers, ou est-ce que, pire encore, il aurait tout le temps pour se manifester parce que
alors,
c'est quelque chose qui était.
Lui peut avoir plus de temps puisque c'est une règle de droit privé.
Oui, donc là, c'est la catastrophe.
Ce n'est pas un recours administratif, c'est un recours au civil. Donc ce n'est
d'accord.
pas du tout la même chose.
Okay, bon,
ouais. Mais enfin, l'idée, c'est quand même de le savoir quand on a le titre de propriété. Le notaire est quand même aussi un garde-fou hein, qui permet d'éviter bien des bêtises,
okay.
souvent. Voilà, l'idée, effectivement, c'est de ne pas s'engager dans une opération qui nous laisserait bloquer après, surtout en achat-revente, pendant un an, deux ans.
Hein. Ouais, ouais,
parce enfin,
effectivement, pour un achat-revente, oui, le temps, c'est de l'argent. Donc, effectivement, on a des sous qui sont immobilisés.
Et puis, voilà, puis le montant de l'offre aussi n'est pas la même.
Oui, complètement, oui, ouais, c'est... C'est pour ça que si vous êtes dans l'optique de démarrer en achat-revente, voilà, sachez que c'est un petit peu aussi le but de ces échanges avec des pros de l'immobilier. Sachez que c'est voilà, un parcours semé d'embûches et que contrairement à ce qu'on peut parfois lire, notamment sur les réseaux sociaux, etc., il y a une multitude de choses qui peuvent vous contraindre d'une manière ou d'une autre sur vos opérations, notamment le temps, on n'en a même pas parlé là, mais la fiscalité, c'est aussi capital pour un marchand, notamment tout ce qui va avoir trait à la TVA, à la TVA immobilière, notamment sur les biens neufs, hein, donc les terrains à bâtir, les constructions neuves, etc. Donc oui, il y a vraiment une multitude de choses à appréhender lorsque l'on s'attaque à des opérations d'achat-revente, notamment sur des terrains. Et lorsque l'on démarre notre recherche, notre prospection par l'analyse d'annonces, là, on est à mille lieues de se douter de tout ce que l'on va pouvoir rencontrer comme pépin potentiel. Donc, il faut être vraiment hyper attentif à tout ça. Je reviens justement sur l'étape numéro 1. Pour avoir fait moi-même des recherches pour des clients marchands ou investisseurs qui souhaitaient dénicher des terrains rentables et intéressants, évidemment, pour leur projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que lorsque l'on regarde des annonces, on tombe parfois sur des particuliers vendeurs, on tombe parfois sur des agents qui proposent un terrain, et puis on tombe parfois aussi sur, et c'est même très très souvent le cas, sur des annonces sur lesquelles on va avoir une petite vue 3D d'une maison ou d'un programme, et où l'annonce semble être rédigée par un constructeur de maison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les subtilités qu'il peut y avoir dans ce monde des terrains à vendre?
Alors, si le particulier, lui, vend en direct, voilà, c'est assez simple. Ensuite, si il souhaite effectivement faire travailler avec un agent immobilier, ce qui se passe souvent, c'est que l'agent immobilier, il a un partenariat avec un constructeur de maison ou plusieurs constructions. Et donc, il délègue l'annonce à ses constructeurs. Et c'est pourquoi souvent, également sur le même terrain, on peut avoir une annonce avec des prix différents en fonction de la maison proposée par le constructeur.
D'accord. Okay. Oui, c'est vrai. Parfois, on voit la même photo.
C'est ça. Fois. Avec un prix différent. En fait, voilà, c'est-à-dire que le constructeur, il commercialise, l'agence lui a donné le pouvoir de commercialiser également ce terrain. Et lui, il va mettre un prix en fonction du projet qu'il a. Et comme il a plusieurs types de maisons à proposer, c'est pour ça que sur un même terrain, il peut y avoir des annonces avec différents prix. Sinon, vous avez aussi des annonces qu'on dit libres de constructeur.
Oui, c'est vrai.
Il en existe aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué puisque souvent l'agent immobilier ne maîtrise pas les règles de construction. Donc, c'est difficile pour lui de savoir ce que l'on peut construire sur un terrain.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que souvent, il délègue.
Oui, c'est le cas majoritairement.
C'est ça.
On regarde un petit peu les annonces, on voit ces vues 3D de maisons qui ont l'air toutes... tout identique, et effectivement parfois on est sur le même terrain qui est divisé en plusieurs parcelles, et donc dans ce cas-là, lorsque l'on va s'adresser, lorsqu'on va appeler le numéro de question, on va tomber parfois sur le constructeur,
c'est ça,
sur la personne qui s'occupe chez le constructeur de la commercialisation du terrain.
Exactement.
En question. Ok, je me suis même entendu dire, j'ai même entendu que parfois il arrive que le constructeur nous fasse signer un mandat ou un contrat avant que l'on nous propose parfois des terrains divers et variés. C'est-à-dire qu'on essaye de nous engager.
Un mandat de...
Ouais, oui, un peu comme un mandat de recherche.
Le CCMI, c'est vrai que le
constructeur de
maison individuelle. Le contrat de construction de maison individuelle, pardon, c'est quelque chose que je maîtrise moins, mais je sais qu'il y a des règles par rapport à la proposition du terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une manière de faire pour proposer le terrain au client sans montrer qu'on lui a proposé, en fait.
D'accord.
Il y a des choses un peu particulières, mais comme c'est un domaine que je connais moins, je ne m'avancerai pas à ce niveau. Dans l'idéal, c'est vrai que c'est mieux de trouver un terrain libre de constructeur.
Oui, parce que... Oui. Okay. Et dans ce cas-là, du coup, on sera un petit peu plus libre dans le projet...
Voilà, et d'ailleurs, possible. Quand on fait, quand un marchand, un investisseur fait une division parcellaire, souvent il le propose lui, libre de constructeur,
oui.
Puisqu'il sait souvent ce que l'on peut déjà faire dessus. C'est vrai que pour commercialiser un terrain, si l'acquéreur potentiel n'arrive pas à se projeter et qu'on ne lui a pas montré ce qu'on pouvait faire dessus, c'est compliqué.
D'accord. Est-ce que tu as une. Alors, d'un point de vue rentabilité, on va dire économie financière d'un projet, est-ce que tu sais un petit peu pour un marchand, prenons le cas d'un marchand qui aimerait acheter et revendre, est-ce que tu as une notion du prix du terrain par rapport au prix de revente espéré? Est-ce que tu saurais nous donner un ordre de grandeur qu'il ne faut pas dépasser souvent pour tes interlocuteurs marchands? Est-ce qu'ils ont comme ça un stop, parfois dans leur tête psychologique, hein, à se dire bah, il ne faudrait pas que le terrain représente plus de, je sais pas, 15 ou 20% par exemple,
hein, alors, du montant? Ça, c'est compliqué à dire. Enfin, pour la promotion, on sait que théoriquement, le terrain représente à peu près 20% du prix.
De l'économie globale. Après, de revente.
Voilà. Ouais. Après, pour les marchands, le mode de calcul n'est pas le même. Donc, je ne sais pas quelle est vraiment la valeur.
D'accord. Mais je crois qu'il pourrait. Je crois que c'est assez proche. Pour l'avoir entendu de la bouche de marchand, je crois qu'on est à peu près dans les mêmes niveaux. Oui, je crois qu'il faut rester dans des. Un niveau à peu près comparable que ce que tu évoques. Je crois que c'est à peu près ça. Ok. Eh bien, écoute, on arrive tranquillement au terme de notre échange. Est-ce que tu aurais un conseil ou un conseil à donner comme ça, par exemple, à un marchand en herbe, on va dire, qui aimerait se lancer sur un achat et peut-être une division d'un terrain? Est-ce que tu aurais comme ça un conseil à lui donner si demain, parmi ceux qui nous écoutent, certains se diraient tiens, allez, moi un terrain ça m'intéresserait de démarrer par ça. Est-ce que tu aurais un conseil ou un warning, une attention particulière à avoir sur un terrain?
Bah, un conseil, c'est de se pencher sur le PLU. Le warning, c'est de supposer que c'est facile. En fait, c'est ça la difficulté. C'est parce que ça, en fait, une fois qu'on le réalise, ça a l'air très facile à faire. Mais il y a tellement de choses à vérifier en amont que c'est compliqué. Il y a plein de projets pour lesquels il va falloir mettre en place des servitudes. Il y a plein de choses à faire pour sortir des projets. Quand on cherche vraiment quelque chose de très, très simple, en général, c'est difficile à trouver. Ça va devenir de plus en plus difficile à trouver. Donc, il faut effectivement s'intéresser à toutes les optimisations possibles que l'on peut faire. Mais ça, c'est encore une autre étape. Mais jamais supposer qu'un projet est simple.
Bon, là, je pense qu'on a déjà parcouru pas mal de choses. Donc, ce qui nous
et après, voilà. Et après, si on a envie de faire ça, il faut s'intéresser à l'urbanisme, au plan d'urbanisme, essayer de le comprendre. Si on ne le comprend pas, se faire accompagner pour progresser encore et toujours. Et puis, c'est en apprenant, en essayant. Mais je ne sais pas combien il y a, je n'avais pas fait les statistiques, mais il y a un nombre incalculable d'essais de projets qui ne se finalisent pas.
Oui.
En fait, sur le nombre de projets qu'on étudie, s'il y en a 10% qui se finalisent,
ouais,
c'est déjà énorme.
C'est déjà beaucoup. Ouais, complètement.
Donc, faut pas se décourager.
Non.
Faut persévérer.
Voilà.
Et puis, si on comprend pas, chercher des partenaires qui peuvent vous expliquer et pas rester bloqué sur une contrainte que l'on n'aurait pas compris, puisque après, ça permet de progresser pour les autres projets aussi.
Très bien. Voilà, je pense que c'est un petit peu la conclusion. C'est effectivement, formez-vous déjà tant que possible, un maximum, avec des formations reconnues et de qualité. Et puis, faites-vous accompagner par des pros. Laurence est disponible et là pour vous accompagner sur vos projets fonciers. Écoute, Laurence, merci beaucoup.
Merci à toi, Gary.
Où est-ce qu'on peut retrouver tes conseils? Est-ce que tu as des liens? Est-ce que tu as, une page LinkedIn que je connais?
Oui, j'ai ma page, mon profil personnel LinkedIn à mon nom, Laurence Delannoy. J'ai une page pro aussi LinkedIn et puis un site internet qui s'appelle monanalysefoncière.fr.
Très bien. Eh ben, on mettra l'ensemble des liens dispo pour l'audio du podcast. Eh bien, merci beaucoup. d'avoir partagé tes expériences avec moi. Et puis, je te dis à très bientôt.
Eh bien, merci, Gary. Et puis, j'espère que nos auditeurs seront satisfaits. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de parler PLU.
Ils seront beaucoup plus avisés après qu'avant. Merci beaucoup, Laurence.
Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. Sans doute, si vous êtes encore là. Je vous invite donc à commenter, noter avec un 5 sur 5, partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site easyinvest.fr, nos réseaux sociaux ou réserver un créneau pour discuter de votre projet. Vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram. Restez toujours positif et n'oubliez pas, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao !